comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal du Dr Seward, 11 septembre. Cet après-midi, je suis retournée à Illingham. Lucie était beaucoup mieux et Van Helsing avait l'air satisfait. Peu après mon arrivée, on vint remettre au professeur un gros colis qui venait de l'étranger. Il l'ouvrit avec empressement affecté bien sûr, puis se retourna vers Lucie en lui tendant un gros bouquet de fleurs blanches. « C'est pour vous, mademoiselle Lucie, » lui dit-il. « Pour moi ? Oh, docteur Van Helsing. Oui, ma chère enfant, mais pas pour orner votre chambre. Ce sont des médicaments. » Ici, Lucie fit la grimace. « Mais non, ce n'est pas pour faire des infusions ou des décoctions au goût désagréable. Ne prenez donc pas cet air. » « Voyez-moi ce visage si charmant, il y a un moment à peine. Sinon, je dirai à mon ami Arthur quelle souffrance il endurera quand il verra que le si beau visage qu'il adore peut faire une si laide grimace. Ah, voilà, ma jolie petite demoiselle. Voilà le petit nez charmant redevenu lui-même. À la bonne heure. Ce sont des médicaments, mais vous n'aurez pas à les absorber. Certaines de ces fleurs, je les mettrai à votre fenêtre. » Avec d'autres, je ferai une jolie guirlande que je vous passerai autour du cou afin que vous dormiez paisiblement. Oui, comme les fleurs de lotus, elles vous aideront à tout oublier. Le parfum ressemble à celui des eaux du Léthé et à celui de cette fontaine de jouvence que les conquistadors allèrent chercher en Floride, mais qu'ils trouvèrent beaucoup trop tard. Pendant qu'il parlait, Lucie contemplait les fleurs et respirait leur parfum. Bientôt, elle les repoussa en riant, mais aussi avec un air un peu dégoûté. « Oh, professeur, je crois que vous vous moquez de moi. Ces fleurs, mais ce sont simplement des fleurs d'ail. » Je fus assez surpris de voir Van Helsing se lever, puis répondre gravement en fronçant les sourcils. « Je ne me moque jamais de personne, jamais. Tout ce que je fais, je le fais avec le plus grand sérieux. » Et je voudrais que vous ne contrariez ni mes intentions, ni les mesures que je veux prendre. Veillez, et si ce n'est pas dans votre propre intérêt, que ce soit dans l'intérêt de ceux qui vous aiment. Mais devant l'effroi peint sur le visage de la pauvre enfant, effroi qui n'était certes pas surprenant, il poursuivit sur un ton plus doux. « Oh, ma petite demoiselle, n'ayez pas peur. Tout ce que je vous dis, c'est pour votre bien. » Et ces fleurs communes possèdent une vertu qui peut contribuer à votre guérison. Voyez, je les placerai moi-même dans votre chambre. Moi-même, je tresserai la couronne que vous porterez autour du cou. Mais chut. De tout ceci, il ne faut parler à personne, ne rien répondre aux questions que l'on pourrait vous poser à ce sujet. Ce qu'il faut, c'est obéir, et le silence, c'est déjà l'obéissance. Si vous obéissez, vous recouvrerez vos forces et vous serez d'autant plus vite dans les bras de celui qui vous attend. Maintenant, reposez-vous, soyez calme. Allons, John, aidez-moi à orner la chambre de ces fleurs que j'ai commandées directement à Harlem, où mon ami Van Der Poel les cultive dans ses serres, d'un bout à l'autre de l'année. Je l'ai prié hier par télégramme de me les envoyer. Nous sommes donc montés, avec les fleurs, dans la chambre de Lucie. Tout ce que fit le professeur était assurément insolite, et s'éloigner de toute pharmacopée existante. D'abord, il ferma soigneusement les fenêtres, veilla à ce que personne ne pût les rouvrir. Puis, prenant une poignée de fleurs, il les frotta sur les châssis, comme s'il voulait que le moindre souffle d'air entrant dans la chambre par un interstice quelconque fût imprégné d'une odeur d'ail. Enfin, il alla frotter de même tout le chambranle de la porte, en haut, en bas et sur les deux côtés, ainsi que le manteau de cheminée tout entier. Je me demandais dans quel but il agissait ainsi. « Écoutez, maître, lui dis-je après quelques moments, je sais qu'il y a toujours une raison à tout ce que vous faites, mais ici, vraiment, je ne comprends pas. Certains, à vous voir, croiraient que vous préparez un charme qui doit interdire l'accès de la chambre à quelque esprit malin. Eh bien, oui, peut-être, me répondit-il tranquillement. Et il se mit à tresser la couronne. Nous attendîmes alors que Lucie fût prête pour la nuit, et lorsqu'on vint nous dire qu'elle s'était mise au lit, Van Helsing alla lui-même lui passer la couronne autour du cou. Avant de la quitter, il lui dit encore « Attention, gardez bien les fleurs telles que je vous les ai mises et sous aucun prétexte, même si vous trouvez que la chambre semble renfermée, vous ne pouvez cette nuit ouvrir la porte ou les fenêtres. » « Je vous le promets, » répondit Lucie, « et merci mille fois à tous deux pour la bonté que vous me témoignez. Oh, qu'ai-je fait pour que le ciel me donne des amis aussi précieux ?» Tandis que nous nous éloignions de la maison, Van Helsing me dit « Ce soir, enfin, je pourrai dormir sur les deux oreilles, et j'en ai besoin. Deux nuits passées à voyager. Entre-temps, une journée de lecture et de recherche. Beaucoup d'inquiétude en revenant ici. Puis encore une nuit à veiller sans fermer l'œil. C'est suffisant. Demain, de bonne heure, vous m'appellerez, et ensemble nous reviendrons voir notre jolie petite demoiselle que nous trouverons bien plus forte à cause de mon charme. » Devant sa confiance, qui semblait inébranlable, je me souvins de celle que j'avais eue deux soirs auparavant, pour éprouver ensuite une si terrible déception, et je me mis à redouter le pire. C'est sans doute à cause de mon état de faiblesse que j'hésitais à avouer mes craintes à mon maître, mais elles me furent d'autant plus douloureuses, telles des larmes qu'on refoule. Chapitre 11. Journal de Lucie Westenra. 12 septembre. Tous ceux qui m'entourent sont si bons pour moi. J'aime beaucoup ce cher docteur Van Helsing, mais je me demande encore pourquoi il tenait absolument à disposer ainsi ses fleurs. Réellement, il me faisait peur. Il peut se montrer si autoritaire. Pourtant, il devait avoir raison, car déjà je me sens mieux, comme soulagée. La nuit, je ne crains plus de rester seule et je dors tranquillement. Peu m'importe si j'entends des battements d'ailes contre la vitre, au dehors, cela ne m'inquiète plus. Oh, quand je pense à quel point, auparavant, je devais lutter pour ne pas m'endormir. Souffrance que de ne pas trouver de sommeil, souffrance plus cruelle, la peur de s'y laisser sombrer, avec toutes les horreurs que cela comportait pour moi. Qui sont heureux ceux qui ne craignent, ne redoutent jamais rien, qui s'endorment tous les soirs d'un sommeil réparateur, peuplé uniquement de rêves doux et paisibles. Eh bien, moi aussi, ce soir, j'appelle le sommeil. J'espère m'endormir bientôt. Je ne savais pas que l'ail pût être agréable. Au contraire, son odeur apaise. Je sens déjà que je m'assoupis. Bonsoir, tout le monde. Journal du docteur Seward, 13 septembre. Quand je suis arrivée au Berkeley, Van Helsing était déjà prêt et m'attendait. La voiture commandée par l'hôtel était devant la porte. Le professeur prit sa trousse avec lui, comme d'ailleurs il le fait toujours à présent. Dès 8 heures, nous étions à Ellingham. La matinée ensoleillée était délicieuse. Toute la fraîcheur de ce début d'automne semblait mener à sa conclusion parfaite, l'œuvre annuelle de la nature. Les feuilles prenaient des teintes diverses, plus délicates les unes que les autres, mais elles ne tombaient pas encore. Dans le corridor, nous rencontrâmes Madame Westenra. Elle aussi se levait toujours de bonne heure. Elle nous accueillit très cordialement. « Vous serez heureux d'apprendre, nous dit-elle, que Lucie est beaucoup mieux. La chère petite dort encore. J'ai entrouvert sa porte, mais quand je l'ai vue qui se reposait, je ne suis pas entrée dans la chambre, par crainte de l'éveiller. » Le professeur sourit. Visiblement, il se félicitait intérieurement. Se frottant les mains, il s'écria « Ah, mon diagnostic était donc juste, et le traitement agit. » À quoi Madame Westenra répondit « Cette amélioration chez ma fille n'est pas due seulement au traitement que vous lui faites suivre, docteur. Si Lucie est bien ce matin, c'est en partie grâce à moi. » « Que voulez-vous dire, madame ?»« Eh bien, comme j'étais un peu inquiète, pendant la nuit, je suis allée dans sa chambre. Elle dormait profondément, si profondément qu'elle ne s'est même pas réveillée quand je suis entrée. Mais la chambre manquait d'air. Partout, il y avait de ces horribles fleurs à l'odeur si insupportable. Et même la pauvre enfant en avait autour du cou. Craignant que, vu son état de faiblesse, ces fleurs ne lui fassent du tort, je les ai enlevées et j'ai entrouvert la fenêtre pour aérer un peu la chambre. Vous serez satisfaite de l'état de notre malade, j'en suis certaine. » Elle se dirigea vers la porte de son boudoir où elle avait l'habitude de se faire servir son petit déjeuner. Pendant qu'elle parlait, j'avais observé le professeur et j'avais vu son visage blêmir. Devant elle, toutefois, il avait su garder son sang-froid pour ne pas l'effrayer. Il avait même souri cependant qu'il tenait la porte pour lui permettre d'entrer dans le boudoir. Mais dès qu'elle eut disparu, il me poussa brusquement dans la salle à manger dont il referma aussitôt la porte. Alors, pour la première fois de ma vie, je vis chez Van Helsing des signes de profond découragement. Il levait les mains, en proie à une sorte de désespoir muet, puis les frappait l'une contre l'autre comme s'il savait que toute tentative désormais serait vaine. Finalement, il se laissa tomber sur une chaise et, le visage enfoui dans les mains, il se mit à pleurer, à sangloter, et les sanglots semblaient venir du fond de son cœur déchiré. À nouveau, il leva les bras comme pour prendre à témoin l'univers entier. « Mon Dieu !» fit-il à voix basse, « mon Dieu ! Qu'avons-nous donc fait ? Qu'a fait cette pauvre petite pour mériter tant d'épreuves ? Est-ce encore, venu du vieux monde païen, un effet de l'inexorable destin ? Cette pauvre mère, bien innocente, animée des meilleures intentions, agit de telle sorte qu'elle met en danger sa fille, corps et âme. Et pourtant, nous ne devons ni ne pouvons le lui dire, même en prenant de grandes précautions, car elle en mourrait, et sa mort signifierait la mort de sa fille. Oh, dans quelle situation nous voilà !» Tout à coup, d'un bond, il se leva. « Venez, reprit-il, il nous faut faire quelque chose. Qu'un démon ou non se soit mis de la partie, ou que même tous les démons se soient ligués contre nous, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous lutterons, nous combattrons. » Il retourna vers la porte d'entrée pour prendre sa trousse, puis nous montâmes à la chambre de la jeune fille. Une fois encore, je levai le store pendant que Van Helsing s'approchait du lit. Mais il n'eut plus le même mouvement de surprise lorsqu'il vit la pâleur affreuse du pauvre petit visage. Seulement, une grave tristesse, mêlée à une pitié infinie, immobilisèrent ses traits. « Je m'y attendais, » murmura-t-il, avec sa petite inspiration légèrement sifflante qui, chez lui, en disait long. Sans un mot de plus, il alla fermer la porte à clé, puis commença à disposer sur le guéridon les instruments nécessaires à une troisième transfusion de sang. J'en avais reconnu l'urgence depuis un bon moment déjà, et j'enlevais mon veston quand Van Helsing m'arrêta d'un geste. « Non, » dit-il, « aujourd'hui, c'est vous qui opérerez, et c'est moi qui donnerai le sang. » Vous n'êtes déjà que trop affaibli. » Tout en parlant, à son tour, il ôtait son veston, relevait la manche de sa chemise. De nouveau, la transfusion, de nouveau, la morphine, et de nouveau, nous vîmes les joues livides se colorer peu à peu, la respiration régulière soulever la poitrine tandis que le sommeil redevenait normal. Et ce fut moi qui veillais, tandis que Van Helsing se reposait et réparait ses forces. Au cours d'un entretien qu'il reçut ensuite avec Madame Westenra, il lui fit comprendre qu'elle ne devait jamais ôter quoi que ce fût de la chambre de Lucie sans lui en parler auparavant, que les fleurs en question possédaient une vertu médicinale et que le traitement qu'il préconisait pour Lucie consistait en partie à respirer leur parfum. Il me dit alors qu'il voulait voir lui-même comment allait se comporter la malade et qu'il resterait de nuit à son chevet. Il me préviendrait par écrit lorsque ma présence serait nécessaire. Une heure ou deux plus tard, Lucie s'éveilla, fraîche comme une rose, et riant avec nous. Bref, elle ne semblait nullement se ressentir de cette nouvelle épreuve. De quelle maladie souffre-t-elle? Je commence à me demander si, à force de vivre parmi les aliénés, je ne deviens pas fou moi-même. Journal de Lucie Westenra, 17 septembre. 4 jours et 4 nuits paisibles. Oui, 4 jours et 4 nuits d'un calme parfait. Je me sens si forte que c'est à peine si je me reconnais. J'ai l'impression d'avoir fait un long, très long cauchemar et que je viens de me réveiller dans une chambre illuminée de soleil où entre également l'air frais du matin. Je me souviens très vaguement de longs moments faits tout ensemble d'angoisse, d'attente et d'appréhension. Des moments pleins de ténèbres et vides de tout espoir qui auraient pu rendre ma détresse moins poignante. Ensuite, c'était de longs moments d'oubli. Une autre impression subsiste encore. Celle de remonter à la surface de la vie, comme le plongeur qui sort d'une eau profonde et tumultueuse. Depuis que le docteur Van Helsing est ici, à vrai dire, tous ces mauvais rêves sont pour moi choses anciennes. Les bruits qui m'affolaient, les battements d'ailes contre la vitre par exemple, ou les voix lointaines qui semblaient se rapprocher de plus en plus, ou ces appels qui venaient de je ne sais où et m'enjoignaient de faire je ne sais quoi, tout cela a cessé. Le soir, maintenant, quand je me couche, je ne crains plus de m'endormir. Je ne fais même plus aucun effort pour me tenir éveillée. De plus, à présent, je trouve l'odeur d'ail fort agréable. Et chaque jour, on m'en envoie de Harlem une grande caisse. Ce soir, le docteur Van Helsing me quitte, parce qu'il doit aller passer une journée à Amsterdam. Mais je me sens si bien que vraiment, je puis rester seule. Je rends grâce à Dieu quand je pense à maman, à mon cher Arthur, et à nos amis qui tous ont été si bons pour nous. Que l'on me veuille ou non, ne fera pas grande différence, puisque la nuit passée, me réveillant à deux reprises, je me suis aperçue que le professeur s'était endormi dans son fauteuil et que, malgré cela, je n'ai pas eu peur de me laisser à nouveau reprendre par le sommeil. Pourtant, des branches ou des chauves-souris ou je ne sais quoi d'autre venaient à chaque instant cogner contre la fenêtre avec colère, eût-on dit. The Pall Mall Gazette, 18 septembre. Le loup s'échappe. L'aventure dangereuse d'un de nos journalistes, interview du gardien au jardin zoologique. Après bien de vaines tentatives et après m'être servi chaque fois de ces mots, Pall Mall Gazette, comme d'un talisman, je parvins à dénicher le gardien de la section du jardin zoologique où se trouvent les loups. Thomas Bilder habite une des loges qui avoisine le bâtiment réservé aux éléphants, et je suis arrivée chez lui au moment où il se mettait à table pour le thé. Lui et sa femme pratiquent les lois de l'hospitalité. Ce sont des gens d'un certain âge déjà, sans enfants, et qui, je pense, doivent vivre de façon assez confortable. Le gardien refusa de parler affaires, comme il dit, avant la fin du repas. Je ne voulus pas le contrarier. Mais une fois la table desservie, il alluma sa pipe et me dit « Maintenant, monsieur, je vous écoute. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. » Vous m'excuserez, n'est-ce pas, d'avoir pas voulu parler profession avant d'avoir mangé. Mais c'est comme pour ce qui est des loups, des chacals et des hyènes. Je leur donne toujours leur repas avant de leur poser les questions que j'ai à leur poser. Comment cela, vous leur posez des questions ? Demandai-je dans le but de le faire parler. Ou je leur frappe sur la tête avec un bâton, ou je leur gratte dans les oreilles, pour faire plaisir aux gars qui viennent avec leurs bonnes armes et veulent du spectacle pour leurs sous. Moi, ça me sera égal de leur flanquer des coups avant de leur donner à manger. Mais tout de même, je préfère qu'ils aient eu leur café, leur pousse-café, si vous comprenez ce que je veux dire, avant que je me mette à leur gratter les oreilles. Voyez-vous, ajouta-t-il avec un air de philosophe, il y a beaucoup de ressemblances entre ces animaux et nous. Vous, voilà, qui venez me poser un tas de questions sur mon métier, franchement, si ce n'était votre jeunesse, je vous aurais envoyé paître sans vous répondre. Quand vous m'avez demandé si je voulais que vous me demandiez au surveillant en chef, si vous pouviez me poser des questions, alors je vous ai dit d'aller au diable ? Oui, vous l'avez dit. Mais maintenant que, comme les lions, les loups, les tigres, j'ai eu ma pitance que ma bonne vieille m'a donnée à manger et à boire, et que j'ai allumé ma pipe, Vous pouvez me gratter les oreilles autant qu'il vous plaira, je ne me fâcherai pas. Allez-y, vos questions, je les attends. Je sais que c'est au sujet de ce loup qui s'est sauvé. Exactement. Je désirais savoir ce que vous pensez de cette affaire. Racontez-moi, je vous prie, comment cela s'est passé. Une fois que vous m'aurez donné tous les détails, je vous demanderai pourquoi, selon vous, cette bête a pu s'échapper et comment tout cela finira. Très bien, patron. Ben voilà. Ce loup, Berserker, que nous l'appelons, nous l'avions acheté il y a 4 ans, avec 2 autres. C'était un loup très bien élevé, qui ne nous avait jamais donné d'embarras. Ou alors, ça vaut même pas la peine d'en parler. Qu'il ait voulu se sauver, voilà ce qui me surprend maintenant. Mais, voyez-vous, c'est qu'on ne peut pas se fier au loup plus qu'aux femmes. « Ne l'écoutez pas, monsieur !» s'écria Madame Bilder en éclatant de rire. « Il s'occupe depuis si longtemps de toutes ces bêtes que l'on peut bénir le ciel s'il n'est lui-même devenu comme un vieux loup. Mais pour être dangereux, il ne l'est pas, vous savez, pas du tout. » « Oui, monsieur, il y avait 2 heures environ hier que j'avais donné à manger aux bêtes. Et quand j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas normal. J'étais chez les singes à étendre de la paille pour le puma qui est malade, quand j'ai entendu des hurlements. Je suis tout de suite venu voir ce qui se passait. C'était Berserker, qui se démenait comme un fou, qui sautait sur les barreaux de la cage, comme s'il voulait les arracher pour se sauver. Il n'y avait pas beaucoup de visiteurs à ce moment-là. Un seul homme seulement, tout près de la cage. Un homme grand, mince, avec un long nez recourbé et une barbe pointue, dont quelques poils étaient blancs. Son regard était dur et froid. Ses yeux flamboyaient. Vrai, comme je vous dis, il flamboyait. Et tout de suite, je lui en ai voulu, car il me semblait que c'était contre lui que l'animal se fâchait ainsi. Il portait des gants de peau blanche, et du doigt, il me montra les loups en me disant « Gardien, qu'est-ce qui excite ces loups, croyez-vous » « Peut-être que c'est vous ?» que je répondis, car vraiment, les manières de cet homme ne me plaisaient pas. Au lieu de se mettre en colère, comme je m'y attendais, il me sourit d'une façon bizarre, peut-être insolente, en découvrant de longues dents blanches, très pointues. « Oh non, » fit-il, « ces bêtes ne me trouveraient pas à leur goût. »« Oh si, elles vous trouveraient à leur goût, » que je répondis. « À l'heure du thé, elles aiment toujours se faire les dents sur un os ou deux. Et à vous voir... » Chose étrange, quand ils nous virent bavarder de la sorte, les loups se calmèrent. Et quand je m'approchais de Berserker, comme d'habitude, il me laissa caresser ses oreilles. L'homme s'approcha à son tour, et je vais être pendu s'il ne se mit pas lui aussi à caresser le vieux loup. « Attention, lui dis-je, Berserker peut être dangereux. »« Ne craignez rien, » qui me fit. « Les loups et moi, on se connaît. »« Ah, vous gardez aussi des loups ?» demandai-je tout en me découvrant. « Car un monsieur qui s'occupe de loups, patron, c'est toujours un ami pour moi. »« Non, pas exactement, » qui m'expliqua alors. « Non, je ne garde pas les loups, mais enfin, certains loups sont parfois devenus très familiers avec moi. » Et en disant ces mots, il souleva son chapeau comme l'aurait fait un lord, puis s'éloigna. Le vieux Berserker le suivit des yeux aussi longtemps qu'il put le voir. Puis il alla se coucher dans un coin d'où il ne voulut pas bouger toute la soirée. Mais dès que la lune fut levée, tous les loups se mirent à hurler, sans raison, qui me semblait. Il n'y avait personne dans les environs, seulement quelqu'un qui, quelque part, derrière les jardins de Park Road, appelait un chien. Une ou deux fois, je suis allé voir les bêtes. Il ne se passait rien d'anormal. Puis tout à coup, ils ont cessé d'hurler. Ensuite, quelques minutes avant minuit, je suis de nouveau allé voir, avant de me coucher, et quand je suis arrivé devant la cage du vieux Berserker, les barreaux étaient tout tordus et cassés par endroits, et la cage était vide. Voilà tout ce que je sais, monsieur. Mais pour ce qui est de savoir, j'en suis certain. Vous ne connaissez personne qui aurait remarqué quelque chose cette nuit-là? Vers minuit également, un de nos jardiniers revenait de la fanfare, quand soudain il a vu un gros chien gris sortir d'un trou de la haie. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Mais quant à moi, j'y crois pas beaucoup, car en rentrant chez lui, il n'en a pas dit un seul mot à sa femme. C'est que lorsqu'on a su que le loup s'était sauvé et que nous avons passé toute la nuit à le chercher partout, que notre homme s'est souvenu d'avoir vu ce gros chien. Ce que je crois, moi, c'est que la fanfare l'avait tourneboulé. Maintenant, monsieur Bilder, pourriez-vous me dire pourquoi, selon vous, ce loup s'est échappé? Ben oui, monsieur, je crois que je pourrais vous l'expliquer, fit-il. Et il parlait avec modestie. Seulement, je ne sais pas si mon explication vous suffira. Là, mon ami, soyez complètement rassuré. Si vous, qui connaissez toutes les habitudes des animaux, ne pouvez pas comprendre exactement ce qui s'est passé, qui donc en vérité le pourrait ? Eh bien, monsieur, voilà. Selon moi, ce loup s'est échappé, tout simplement parce qu'il voulait connaître la liberté. À cette plaisanterie, Thomas et sa femme éclatèrent de rire, et je compris que ce n'était pas la première fois que le bonhomme la servait. J'employai un autre moyen plus efficace, celui-là de lui toucher le cœur. « Bon, monsieur Bilder, considérons, n'est-ce pas, que ce demi-souverain que je vous ai donné a déjà rendu tous les services qu'il pouvait rendre, et que son frère est là, qui attend que vous le réclamiez une fois que vous m'aurez dit, cette fois, comment, à votre avis, toute cette histoire finira ?»« Parfait, monsieur. Et j'espère que vous m'excuserez, mais tout à l'heure, la vieille ici m'a fait un clin d'œil qui m'a... »« Moi ? Jamais ?» s'écria sa femme. « Sincèrement, monsieur, je crois que ce loup se cache quelque part. » Le jardinier a dit que la bête galopait en direction du nord, et qu'elle galopait plus vite que ne galoperait un cheval. J'en crois rien, car vous voyez, monsieur, les loups ne galopent pas plus que les chiens. Ils sont pas bâtis pour ça. Les loups, ce sont des créatures étonnantes dans les livres d'histoire, peut-être, quand ils s'assemblent pour poursuivre un être effrayé. Mais que le Seigneur ait pitié de nous. Dans la vie réelle, un loup, ça vaut même pas un bon chien. C'est beaucoup moins intelligent, moins hardi. Ce Bersicker, on ne l'a pas habitué à se battre, ni même à chercher sa nourriture. Et sans doute est-il maintenant à se promener dans le parc, en se demandant, si toutefois il est capable d'y penser, où il trouvera à déjeuner. Ou bien est-il allé un peu plus loin ? Peut-être est-il, à l'heure où je vous parle, dans une cave à charbon. Ou encore, s'il trouve rien à manger, m'est avis qu'il pourrait se précipiter dans une boucherie. Et alors ? Sinon... Et si une bonne d'enfant vient à passer avec un soldat, ayant laissé derrière elle le petit dans sa voiture, eh bien, je serais pas étonné alors si au recensement de la population, on s'apercevait qu'il y a un bébé en moins. Voilà comment je vois l'histoire. Je lui tendais une seconde pièce d'un demi-souverain quand, au dehors, quelque chose surgit de dessous la fenêtre et vint se cogner contre la vitre. Le visage de Monsieur Bilder, qu'il avait naturellement long, s'allongea encore d'étonnement. « Bon Dieu ! » s'écria-t-il. Mais est-ce pas le vieux Bersicker qui revient de lui-même ? Il alla ouvrir la porte. Chose bien inutile, me dis-je. J'ai toujours pensé qu'un animal sauvage ne se trouve jamais à une place qui lui convienne mieux que lorsqu'un obstacle le sépare de nous. Mon expérience personnelle m'a convaincu de la justesse de cette idée. Mais après tout, il n'y a rien de tel que l'habitude, car Bilder et sa femme n'avaient pas plus peur du loup que je n'aurais peur d'un chien. Cette bête était aussi paisible, aussi douce que son ancêtre, le compagnon du petit chaperon rouge. Toute cette scène du retour au bercail avait quelque chose de comique et d'émouvant tout ensemble, qu'il serait difficile de décrire. Le méchant loup qui, pendant une longue demi-journée, avait été la terreur de Londres et avait fait trembler tous les enfants, était là, devant nous, l'air repentant, et fêté et caressé comme une sorte de fils prodigue. Bilder l'examina de la tête aux pattes, en lui témoignant mille tendresses, puis il déclara « Voilà, je savais bien que la pauvre bête aurait des ennuis. L'ai-je pas dit tout le temps depuis hier ? Voyez sa gueule, toute blessée, pleine encore de morceaux de verre. Elle a certainement voulu sauter au-dessus d'un mur ou l'autre. C'est une vraie honte que les gens puissent garnir leurs murs de tessons de bouteilles. Vous voyez, voilà ce qui arrive. Viens ici, Bersicker. » Il emmena le loup et alla l'enfermer dans une cage. Il lui donna un quartier de viande, puis se rendit près de son chef et l'avertit du retour de l'animal. De mon côté, je suis revenu ici afin de relater pour notre journal la seule version que l'on ait aujourd'hui de cette escapade qui a mis le zoo en grand témoin.